Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, cet épisode que vous allez découvrir fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Et oui, savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques, ses thématiques, ses particularités d'écriture est fondamental lorsque vous êtes amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu le jour de l'épreuve écrite. Prenons un exemple tout simple. Si on voit la date de 1550 sur le texte que vous avez à commenter, on ne peut pas ne pas se centrer sur l'influence du contexte historique et surtout littéraire de l'humanisme, mouvement majeur à exploiter. On risquerait au pire d'oublier un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête des points majeurs, des caractéristiques majeures de ce mouvement littéraire, eh bien ceux-ci vous permettront d'orienter vos analyses de façon pertinente. Ils vous serviront par exemple dans l'introduction générale pour contextualiser votre texte d'étude, ou encore dans les axes d'étude, ils vous permettront de donner une orientation intéressante à vos analyses à la fois stylistiques et littéraires. Et cet ancrage, vous en doutez, ne pourra être qu'apprécié par votre correcteur. Rien de pire que de commenter un texte par exemple des années 1680 en oubliant complètement d'évoquer le classicisme, pire en se trompant de mouvement. Eh bien, ces épisodes consacrés à l'histoire littéraire vont vous permettre justement d'éviter ces écueils. On débutera tout simplement le podcast par évoquer le contexte historique, vous mettre un petit peu dans ce contexte qui a fait que tel ou tel auteur sera forcément et immanquablement influencé par l'histoire avec un grand H. Ensuite, nous évoquerons les caractéristiques majeures de ce mouvement pour finir par évoquer les auteurs principaux que vous devez absolument connaître. Bien évidemment, chaque épisode, comme dans les autres séries, sera accompagné d'une infographie sous forme d'une frise chronologique afin de vous situer au mieux les mouvements, les événements à retenir. Alors tout d'abord, évoquer l'humaniste, c'est évoquer bien sûr le XVIe siècle, cette période dite de la Renaissance des arts, des sciences et de la pensée qui s'est développée, comme vous le savez, avant tout en Italie, puis en France, puis dans le reste de l'Europe, au cours des XVe et XVIe siècles. La Renaissance est la redécouverte des textes grecs et latins, c'est le regain d'intérêt pour la sagesse antique, c'est la diffusion des idées nouvelles grâce aux échanges entre les intellectuels européens que l'on qualifiera d'humaniste, mot qui désigne initialement celui, l'intellectuel, qui se consacre à l'étude des textes antiques. Alors replongeons-nous dans le contexte historique pour mieux comprendre l'essor de ce mouvement. Il y a une date que vous avez à retenir, qui est la première, c'est 1453. Pourquoi cette date est-elle importante? Eh bien parce que c'est la prise de Constantinople par les Turcs et c'est la fin de l'Empire romain d'Orient. La chute de l'Empire romain provoque l'exil de nombreux moines byzantins vers l'Italie. Et que font-ils ces moines en arrivant en Italie? Eh bien ils rapportent avec eux des manuscrits antiques et c'est ainsi que la période de la Renaissance redécouvre l'Antiquité et la prend pour modèle. Alors le terme humanisme, que veut-il dire véritablement? Il désigne avant tout cette idée que l'homme va être à présent au centre des réflexions. Et ce n'est pas anodin cette idée-là, parce qu'il faut savoir que parallèlement, vous avez Copernic, qui découvre l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette idée qu'il prouve que la Terre tourne autour du Soleil. Cette conception nouvelle et cette conception d'un nouvel univers sans limite s'oppose à la doctrine de l'Église pour qui l'infini n'appartient qu'à Dieu. Et vous avez donc cette idée de mettre cette fois-ci au centre de tous les intérêts l'homme, et c'est ça être humaniste, s'intéresser à l'homme. Cette période humaniste, on peut la qualifier de période optimiste. Pourquoi? Parce que la Renaissance est une période qui est marquée par de nombreux progrès. Des progrès scientifiques, des découvertes, des innovations techniques qui permettent, par exemple, d'améliorer les voyages en mer. On peut prendre par exemple la caravelle qui est inventée par les Portugais, les instruments de navigation comme les boussoles, les astrolabes. Bref, toutes ces découvertes permettent la découverte des nouveaux mondes. Bien évidemment, vous connaissez tous la date de 1492 par la découverte de l'Amérique qui va bouleverser ce rapport à l'autre. On a d'autres domaines aussi où il y a cette période optimiste de progrès. Le domaine de la médecine se développe avec la pratique de l'autopsie, certes interdite encore par l'Église, mais qui va permettre de découvrir le fonctionnement des organes internes. Enfin, une autre invention capitale, c'est celle que vous connaissez bien évidemment, la mise au point en 1450 par Gutenberg de l'imprimerie. Pourquoi c'est une véritable révolution à l'époque? On la met souvent en parallèle avec notre révolution d'aujourd'hui, qui est la révolution numérique. Eh bien, tout simplement parce qu'elle va permettre une très large diffusion des ouvrages. Ils vont pouvoir circuler de manière exponentielle. Et donc, le savoir, on pourrait le dire quelque part, est à portée de main pour tous. Et les auteurs, les intellectuels vont bien sûr en bénéficier. Nos humanistes vont profiter de cette invention pour diffuser leurs nouvelles idées, à savoir mettre l'homme au centre de tous les intérêts. Alors justement, quelles sont les thématiques que la littérature humaniste va développer avant tout et que vous pouvez retrouver dans les textes que l'on vous soumet à l'étude? Bien, tout d'abord, il y a l'évocation d'un des grands thèmes qui était cher aux humanistes, c'est celui de l'éducation. Il propose de nouvelles méthodes pédagogiques visant au développement de l'esprit critique et à l'extension du champ des connaissances. C'est un thème que vous retrouverez très cher et développé par Rabelais ou encore Montaigne. Mais la philosophie et littérature humaniste évoquent aussi le thème du voyage, la découverte de l'autre, l'absolue nécessité de partir à la rencontre de l'autre pour mieux le connaître et bien sûr mieux se connaître. Encore une fois, vous retrouverez ça dans les essais de Montaigne et plus particulièrement le chapitre des cannibales. Mais il n'y a pas que cette thématique de l'éducation et du voyage. On a aussi dans la littérature humaniste l'évocation du rôle important de la politique en évoquant la recherche d'une harmonie sociale, en donnant des conseils concernant le rôle du bon prince et la meilleure façon de régner sur ces sujets. On a aussi la thématique de la guerre qui est dénoncée, on évoque et on réfléchit à une société idéale, on pourrait évoquer l'utopie de Thomas More, mais on voit aussi que cette littérature s'intéresse au développement du courant évangélique qui prône la lecture directe des textes bibliques, la prière personnelle, la méditation. Et on voit qu'avec tous ces thèmes, on a ce que l'on pourrait qualifier de déjà littérature engagée. L'objectif des humanistes, c'est de développer la réflexion pour mieux critiquer, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire évoquer ou proposer quelque chose de constructif. Et c'est ça qui fait toute la saveur et la richesse de la littérature humaniste, c'est qu'elle brasse et elle embrasse de nombreux sujets pour amener le lecteur à réfléchir et à se construire lui-même sa pensée critique. Et parallèlement, donc avec ces humanistes, vous avez compris, qui abordent de nombreuses thématiques, eh bien, se développent de nouveaux genres littéraires. La littérature humaniste s'ouvre à la pensée philosophique, politique, religieuse, et pour ce faire, elle va exploiter de nombreux genres variés, comme l'essai, le pamphlet, le discours, l'utopie. Et l'écriture est souvent basée sur des démarches didactiques, c'est-à-dire qui visent à mettre le savoir à la portée de tout lecteur. Donc il y a vraiment chez les humanistes aussi cette recherche permanente d'une connivence intellectuelle avec le lecteur qui a pour but justement de faire en sorte que chacun s'approprie le savoir. Alors, pour terminer aussi cette présentation de l'humanisme et pour achever cette vision générale, comment bien sûr ne pas évoquer les auteurs les plus représentatifs de ce mouvement ? Car bien sûr, le jour de l'écrit, il faudra être très attentif à ces noms et avoir tout de suite le réflexe, de par la date, mais aussi donc le nom de ces auteurs, avoir le réflexe d'identifier tout de suite le mouvement littéraire auquel il appartient. Par exemple, on pourrait évoquer, et vous le retrouverez dans l'infographie qui accompagne ce podcast, vous devez absolument retenir le fait que des auteurs comme Rabelais, Montaigne ou encore Du Bellay font partie de cette grande période de l'histoire littéraire. Comment ne pas aborder Montaigne et ses essais qui justement abordent cette thématique qu'on a évoquée précédemment de l'éducation, mais aussi la rencontre de l'autre? Comment ne pas aborder Rabelais et ces fameux géants qui ont été Gargantua et Pantagruel? N'oubliez pas que si vous tombez sur un extrait des œuvres de Rabelais, il faudra bien sûr évoquer cette métaphore du savoir, ce désir d'appétit sans cesse renouvelé, qui est bien sûr symbolisé de façon métaphorique par ces géants qui ont soif de manger, de boire, métaphore qui représente bien sûr ce savoir typiquement humaniste. Et puis, vous avez des auteurs de la Pléiade que vous avez dû parcourir à travers vos années de seconde et aussi de première, comme par exemple Du Bellay et Ronsard, qui sont aussi les porteurs de ce savoir humaniste. Et donc, vous verrez sur l'infographie qu'il y a aussi l'évocation de ce fameux ouvrage de défense et illustration de la langue française qui met bien sûr en évidence toute la beauté de la langue française qui va être au service de ces nombreuses connaissances. Donc vous voyez que connaître un mouvement littéraire, c'est aussi être capable de remettre dans un contexte un auteur qu'on va vous demander d'étudier, ou du moins un extrait d'une de ses œuvres majeures. Et je vous renvoie aussi à cet ouvrage qui a le mérite de condenser aussi tous les auteurs qui renvoient et qui font référence à ces mouvements littéraires que l'on va évoquer à travers les podcasts. Je vous renvoie donc à la bibliothèque du littéraire de Monsieur Mercoirol, qui a ce mérite de vous présenter de façon synthétique les œuvres majeures que vous devez absolument connaître par mouvement. Et donc vous y retrouverez bien évidemment la référence aux œuvres qu'on a évoquées, à savoir les essais, le Pantagruel et Gargantua de Rabelais, ou encore les œuvres poétiques de nos fameux auteurs de la Pléiade que l'on a évoqués, Du Bellay et Ronsard. Donc prenez-les comme un complément à ce podcast, regardez les résumés qui sont faits, qui vous permettent de retenir l'essentiel de leurs œuvres. Cela vous permettra d'intégrer toutes ces remarques dans vos réflexions littéraires et stylistiques demandées dans les commentaires littéraires. Eh bien, je vous dis d'ici là rendez-vous pour un nouvel épisode consacré au mouvement majeur littéraire à connaître. D'ici là, à très vite sur Clapotis.